C'est la chronique de Monique Kirouac. Monique, vous allez nous raconter une histoire vraiment fascinante, comme dirait l'autre, autour d'œuvres d'un peintre allemand.
Oui, oui, exactement, qui s'appelle Otto Dix. Et donc, je vous disais que c'est la doctorante Monica Wright, qui est doctorante en histoire de l'art de l'Université du Québec à Montréal, qui a publié un article le 4 septembre dernier dans La Conversation au sujet de deux œuvres de ce peintre. Alors, en 1933, dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir à titre de chancelier du Parti national-socialiste, il y a d'importantes campagnes de pillage d'œuvres d'art, d'avant-gardistes qui sont organisées. Bon, on se rappelle, hein, on a qualifié cette génération d'artistes de dégénérés. Ces œuvres sont d'abord confisquées dans les institutions muséales allemandes, puis dans les collections privées. Les populations juives, on le sait, sont particulièrement ciblées à cet égard. Lorsque la guerre éclate, les pays occupés sont à leur tour dépossédés de leurs biens culturels. Il y a une première tentative de restitution qui a lieu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais on le devine, les priorités vont alors à la reconstruction des pays qui sont lourdement touchés. Il faudra attendre, c'est les années 1990 pour voir de réelles mesures être mises en place afin que ces œuvres soient rendues à leurs propriétaires ou à leurs familles. Toutefois, il faut savoir qu'encore aujourd'hui, Hélène, il y a des milliers d'entre elles qui demeurent introuvables ou se trouvent injustement dans des collections muséales ou privées. Et pas rare d'entendre de nouvelles histoires assez rocambolesques d'œuvres qui réapparaissent après plus de 80 ans, comme cette toile de Giuseppe Ghislandi. La toile s'intitule Portrait d'une dame. Giuseppe Ghislandi, c'est un peintre italien du 17e siècle. Alors, cette œuvre a été repérée en nous, écoutez bien, sur le site web d'une agence immobilière qui proposait une maison à vendre en Argentine. Cette œuvre ayant été pillée par les nazis à un marchand d'art juif à Amsterdam durant l'occupation. Ce marchand d'art, d'ailleurs, était le plus grand marchand d'art à l'époque de l'Europe. Il possédait plus de 1100 œuvres. Alors, désormais, la plupart des institutions se sont dotées de politiques encadrant ce qu'on appelle la recherche en provenance des œuvres de leur collection, avec une attention particulière portée sur la période allant de 1933 à 1945. Alors, dans ce contexte, certaines œuvres ont suivi des parcours surprenants. Passionnée par la question de la spoliation et le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, Madame Wright a pu le constater lors de ses recherches en histoire de l'art. Elle s'est alors intéressée à la trajectoire de deux portraits exécutés par l'artiste de la Nouvelle Objectivité, qui est un courant artistique en Allemagne après la Première Guerre mondiale. Donc, le peintre Otto Dix, aujourd'hui conservé dans des collections muséales canadiennes. Le parcours de l'un a été retracé, tandis que l'autre reste, comme je le disais en introduction, plus mystérieux. Alors parlons du premier. Portrait de l'avocat Hugo Simons est réalisé par Dix en 1925 pour son ami Hugo Simons, d'où le titre de l'œuvre, parce qu'il avait remporté un procès pour lui, donc c'était comme une récompense. Lorsque la guerre éclate, Simons et sa famille de religion juive fuient l'Allemagne nazie pour s'installer à Montréal en 1939. Simons conserve le tableau tout au long de sa vie. Après sa mort, la famille décide de mettre en vente le tableau en 1992. L'œuvre est alors proposée au Musée des beaux-arts de Montréal pour la moitié de son prix en guise de reconnaissance envers la ville d'accueil. Alors que plus de la moitié des œuvres de Dix ont disparu ou ont été détruites durant la guerre, celle-ci se trouve dans un parfait état de conservation. S'ensuivent des négociations assez difficiles entre le MBAM et le gouvernement fédéral qui est réticent à accorder un prêt. l'affaire a vraiment pris une dimension publique. Ça fait la une dans les médias. Et finalement, grâce à l'addition de financements privés et publics, ben, le tableau entre dans la collection du MBAM en 1993. Passons maintenant au second tableau. Il s'intitule « Portrait du docteur Heinrich Stadelmann ». Il a un parcours moins limpide. Aujourd'hui, conservé à l'Art Gallery of Ontario, que l'on abrège par AGO à Toronto, le tableau a été commandé par Stadelmann lui-même en 1922. Il s'agit d'un psychiatre dresdois qui est reconnu pour son érudition et son excentricité. Il est aussi un fervent admirateur des avant-gardes. Contrairement à Simons, Stadelmann n'a jamais mis les pieds au Canada. Alors pourquoi le tableau se retrouve-t-il alors à l'AGO? Rien ne l'explique à première vue. Le cartel indique simplement « don anonyme 1969, don fait par l'Ontario Heritage Foundation 1988 ». Là, j'ai traduit parce que tout ça est en anglais, le tableau étant à Toronto. À l'exception d'une courte période passée hors de Dresde durant les bombardements, Stadelmann y est toujours resté et aurait continué à pratiquer jusqu'à sa mort en 1948. Des recherches en archives révèlent toutefois que l'œuvre aurait aussi appartenu à un docteur en physique qui s'appelle William Landmann, juif. Il fuit également l'Allemagne nazie en 1939 et s'installe à Toronto avec sa famille. C'est un grand collectionneur d'art qui aurait acquis la majorité de ses œuvres entre 1920 et 1935. Sa collection, Hélène, comprend des pièces de Chagall, Klee, Kandinsky, alors c'est vraiment un grand collectionneur. Landmann, aurait lui-même été victime de spoliation nazie. Lors de son immigration au Canada, il n'aurait emporté qu'une partie de sa collection, l'autre restant entreposée en Europe, notamment dans les voûtes du Rijksmuseum à Amsterdam et dans des entrepôts suisses. Il va en récupérer une partie en 1946, mais plusieurs œuvres demeurent aujourd'hui encore introuvables. Elles figurent, ces œuvres, dans la base de données que l'on appelle « Lost Art », qui permet de répertorier bien des biens culturels confisqués aux personnes persécutées. On ignore si le portrait de Stadelmann est arrivé au Canada avec Landmann en 1939 ou s'il faisait partie du lot récupéré en 1946. Mais il y a une photographie intrigante, en fait, des archives qui montre le dos du tableau. On y distingue l'inscription grossière en noir du chiffre 621 dans le coin supérieur droit du cadre. Le titre y figure également, mais avec une erreur. En fait, une erreur dans le nom. On a écrit Henry. On a oublié le C dans Heinrich. En R-I-C-H, il n'y aurait pas de... Ils l'ont écrit E-N-E-I-N-R-H. Alors, qui a inscrit ce numéro et ce titre fautif et pourquoi?
R-I-H au lieu de R-I-C-H.
Oui, c'est ça, exactement. Oui, exactement. C'était pas clair, hein, mon appellation. Excusez-moi. Le choix de faire...
Je vous en prie.
Le choix de faire du portrait à l'Ontario Heritage Foundation et non faire un don du portrait à Ontario Heritage Foundation, et non directement à l'AGO, intrigue. D'autant plus que l'année du don, 1969, correspond à l'année du décès d'Otto Dix. Et autre coïncidence, en 1988, lorsque l'œuvre est finalement transférée à l'AGO, moins d'un an après la mort de Landmann. Alors pourquoi la Fondation a-t-elle conservé le tableau pendant 19 ans avant de le céder? Autre mystère. Donc, tous ces éléments ne permettent évidemment pas d'affirmer que l'œuvre a été victime de spoliation, mais ça soulève quand même la question. Alors, on voit que l'étude de la trajectoire de ces deux tableaux illustre comment la spoliation a pu influencer le destin d'œuvres qui n'auraient sans doute jamais quitté l'Allemagne autrement. Soulignons que la recherche en provenance reste encore peu développée au Canada, surtout si l'on compare avec l'Europe et les États-Unis. Alors, pourtant, ce cas d'étude démontre toute la pertinence d'entreprendre ces actions. Et on sait qu'il y a beaucoup, justement, de familles, de personnes dont ces œuvres ont été spoliées, qui sont à la recherche de ces œuvres, en quelque sorte, disparues. On sait que Hermann Göring en a acheté énormément à très bas prix. Et bon, il y en a plusieurs qui se sont comme ça répartis à travers le monde, d'où l'œuvre de notre Italien qui s'est retrouvée en Argentine parce qu'elle a été achetée par un collègue de M. Göring. Alors voilà, Hélène, les intrigues en histoire de l'art.
Oh, vraiment intéressant. Alors, si on veut voir le portrait de l'avocat Hugo Simon, c'est au Musée des beaux-arts de Montréal.
Exactement.
Et le portrait du docteur Heinrich Stadelmann, qui a un beau teint vert, c'est à l'Art Gallery of Ontario à Toronto. Merci, Monique.
Ça fait plaisir.